Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans l'émission Le goût du Moyen-Âge, l'émission radio des médiévistes. Dans cette émission, nous allons aborder l'apport de l'archéologie dans la recherche scientifique à travers la présentation de deux étudiants dont les recherches intègrent des données archéologiques. Le premier sujet présenté par Ilona Cordo, axé sur le château de Maillet mis en lumière par l'archéologie du bâti, et le second sujet, axé sur l'île d'Oléron et l'apport de l'archéologie sédimentaire présenté par Quentin Beauchesne.
Petite, j'adorais les cailloux. Plus précisément, ceux qui permettaient de faire des constructions. Petite encore, j'aimais l'archéologie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était possible d'avoir un métier avec ces deux passions. On appelle ça l'archéologie du bâti. Mais alors, c'est quoi ? L'archéologie du bâti étudie les édifices au-dessus ou en dessous du sol. Autrement dit, tout ce qui s'apparente à une construction. De ces architectures, nous tentons de déterminer leur évolution dans le temps. Prenons un exemple concret. Moi, pour mon mémoire, j'étudie le château du Fort des Salles, un espace castral, c'est-à-dire un château et tout son environnement. Il se situe dans le département de la Sarthe, pile entre les rillettes du Mans et les rillettes de Tours. Ce château est connu dans les textes depuis le XIe siècle. Mais moi, quand je vais sur le terrain, je ne vois pas de château XIe. Devant mes yeux, prend place une grande tour qui garde les traces d'un pont-levis, mais aussi de canonnières et de mâchicoulis pour défendre le château en cas d'attaque. Tous ces éléments datent des XIVe, XVe siècles. Alors, j'avance vers la tour. Je marche, j'ouvre une porte et je découvre beaucoup d'autres choses. À ma droite, je vois une magnifique fenêtre du XXe siècle. À ma gauche, je vois un graffiti sur le mur, représentant des têtes de mort. Je descends au sous-sol et voilà quoi ? Une fondation du XIIe siècle ! Waouh ! Sous mes yeux, j'ai donc 9 siècles de construction dans un seul bâtiment. Des cheminées sont refaites, des fenêtres bouchées, d'autres créées. C'est ça, l'archéologie du bâti. C'est un métier qui permet de comprendre les travaux, les aménagements et restaurations réalisés sur un bâtiment. Alors moi, pour mon mémoire, je ne me limite pas qu'à ce que je vois. J'essaie de répondre à beaucoup de questions. Pourquoi a-t-on édifié ce château ? Ses différents travaux ? Quelle était son importance ? Qui étaient ses propriétaires ? Pourquoi ici et pas ailleurs ? Quels matériaux ont servi à sa construction ? Viennent-ils de loin ? Quelle emprise prenait le château ? Vous entendez ? Beaucoup, beaucoup de questions. Je tente alors d'y répondre en m'appuyant sur différents éléments. L'année dernière, j'ai étudié l'historiographie, c'est-à-dire un état de l'art des connaissances sur mon sujet de recherche. Par cette historiographie, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de sources médiévales et modernes sur le château. Cela m'a permis de réaliser un historique du site. Enfin, j'ai recherché toutes les photos, peintures, mais aussi les plans conservés du château. Grâce à ça, je peux dire que ma magnifique tour n'était pas toute seule. Sur les cartes postales, apparaît un bâtiment associé à des écuries et qui aujourd'hui n'existe plus. Découvrir ce bâtiment par la photographie me permet de comprendre des vestiges architecturaux encore présents sur la tour. Les plans, eux, me permettent de connaître l'ensemble des bâtiments entre le 19e siècle et aujourd'hui, et donc de déterminer des périodes de construction et de destruction de ces derniers. Ainsi, ma tour s'accompagnait d'un château entier avec une cour fermée. Pour ce qui est des peintures, malheureusement, seules deux ont été portées à ma connaissance, et elles proposent un état du château correspondant à son état actuel. La recherche iconographique ne m'a donc encore rien apporté. Car oui, parfois, nos pistes de recherche ne mènent à rien. Cette année, je suis allée sur place et j'ai tenté d'étudier avec une petite équipe tous les murs, toutes les fenêtres, les portes, les enduits de ma tour, du sol au plafond et sur 4 niveaux. Voilà mon objet de recherche. J'étudie un château de propriété plantagenêt au XIIe siècle, avec une architecture conservée de la guerre de Cent Ans. Mais ça ne me suffit pas. J'ai envie de comprendre plus que cette tour. Maintenant, il me semble pertinent de réfléchir à fouiller dans cette tour pour trouver d'autres murs, d'autres parties d'architecture sous terre. Comme vous expliquera Quentin, l'archéologie sédimentaire. Voir à ses pieds afin de, pourquoi pas, retrouver le fossé disparu qui servait à notre pont-levis. Même mieux, tenter de fouiller plus loin dans le site pour retrouver la cour fermée disparue. Le château du Fort des Salles, vous l'entendez, se révèle être un objet d'étude riche. Je vous propose, chers auditeurs, de nous retrouver dans quelques années, lors d'une conférence ou à la radio, quand j'aurai eu la chance d'approfondir mes recherches sur ce site d'exception.
Merci Ilona pour cette présentation qui nous permet de bien cerner les questionnements scientifiques que peuvent amener l'archéologie du bâti. Tu expliques que parfois les pistes de recherche ne mènent à rien. As-tu rencontré d'autres difficultés ?
Oui, effectivement, comme j'expliquais juste avant, l'iconographie ne m'a rien apporté pour l'instant dans le cadre de mes recherches sur le château du Fort des Salles. J'ai été face à d'autres difficultés l'année dernière, notamment par rapport à l'historiographie, c'est-à-dire l'état de l'art, comme je l'ai expliqué. Par exemple, pour le château du Fort des Salles, il n'existe aucun travaux récents réalisés sur le site. Il n'y a eu aucune recherche dans les dernières années ou encore même dans les derniers siècles, ce qui m'a fait remonter au 19e siècle pour retrouver les dernières études, les dernières recherches réellement réalisées sur le château du Fort des Salles. Alors, ça a pu être intéressant, mais ça a pu poser parfois aussi quelques problèmes, puisque dans le 19e siècle, on avait beaucoup d'érudits qui allaient trouver des informations, des sources, parfois très sérieusement, en les citant, parfois en ne les citant pas du tout, évidemment, ce qui pose quelques difficultés quant à la véracité des propos proposés. Mais vis-à-vis des sources qui ont été citées, parfois ça pose problème pour les retrouver, puisque parfois les normes archivistiques ont changé, ont évolué, et il devient beaucoup plus compliqué de retrouver les origines de leurs sources. Ça a été un énorme problème, mais j'ai permis quand même, par cette historiographie, de retrouver quelques sources médiévales et modernes sur le château, et donc j'ai pu réaliser un historique du site relativement fiable.
Peux-tu développer sur la suite, comme tu l'as évoqué à la fin de ton intervention ?
À la fin de mon intervention, effectivement, j'ai évoqué de l'archéologie sédimentaire dont développera Quentin. Effectivement, il y a un projet au-delà de ce mémoire qui irait dans l'idée de faire des sondages, puisque cette année, j'ai pu effectuer une étude en archéologie du bâti sur le terrain avec une petite équipe de 4 personnes, comme je le disais. On a étudié absolument tout ce qui était possible d'étudier sur cette tour, même s'il y aura des choses à compléter à l'avenir. Maintenant, le projet, c'est d'effectuer des sondages dans cette tour et au-devant de cette tour, alors à l'intérieur, pourquoi faire, pour retrouver des autres pans de la fondation 12e siècle que j'ai évoqué tout à l'heure, et au-devant de la tour pour essayer de retrouver le fossé disparu, donc l'escarpe et la contre-escarpe du fossé qui correspondaient au pont-levis de la tour. Ce n'est pas une masse à faire, puisqu'il faut trouver dans un premier temps des mécènes. Faire des sondages, c'est un certain budget. La direction régionale des affaires culturelles ne peut pas tout financer. Les propriétaires non plus. Alors il faut essayer d'aller chercher un peu partout. Ce n'est pas toujours simple de trouver les financements adaptés à l'archéologie et à ce type de sondage. Il y a aussi également d'autres difficultés. Quentin vous l'évoquera, mais je suis ici face à un monument historique et on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut sur un site. Il faut toujours obtenir des autorisations des propriétaires ou encore des établissements concernés comme les monuments historiques. Alors il faut tenter de convaincre ces différentes entreprises, ces différents financeurs pour essayer d'obtenir des éléments et des financements pour cette recherche puisque effectivement ce mémoire de recherche tend à continuer dans une thèse dans les années à venir. C'est pourquoi ces sondages l'année prochaine seraient pertinents et prendraient place au sein du château du Fort des Salles.
Merci encore Ilona, on te souhaite bonne chance et bon courage pour la suite de ta recherche.
Commençons par rappeler que si le château médiéval d'Oléron a tant fasciné les historiens et la population locale de l'île, c'est parce que l'emplacement de cet édifice imposant était supposé être sous la citadelle moderne. Je suis étudiant en archéologie et actuellement en deuxième année de master mondes médiévaux à l'université de Poitiers. Le château médiéval d'Oléron est le sujet de mon mémoire de recherche, dont je vais vous présenter maintenant les avancées. Mes recherches sont orientées sur l'occupation de l'île d'Oléron du XIe au XVIIe siècle, ce qui me permet d'intégrer à ma recherche la citadelle moderne. Ce choix d'étudier un site insulaire a pour objectif d'appréhender l'aspect du bourg et du château à travers les sources à ma disposition. Le choix de réaliser ce travail est né de la mise en place de fouilles programmées sur le site de la citadelle d'Oléron de 2020 à 2022, dirigée par Bastien Gissinger. Jusqu'à présent, les travaux effectués ne s'étaient pas concentrés du XIe au XVIIe siècle de façon continue, ni focalisés sur la structuration médiévale. C'est pourquoi mes recherches s'articulent autour de deux questionnements majeurs. Le contexte et la place stratégique de l'île d'Oléron, qui fait de cet espace un lieu de convoitise, et l'organisation du territoire insulaire, son rôle et les différents acteurs. Pour répondre à ces questions, il a d'abord fallu reprendre les éléments déjà connus et les différentes hypothèses émises. Dans le cas de ces recherches, un élément important est à prendre en compte, celui de l'absence de vestiges médiévaux en élévation, ce qui n'est pas anodin et rend un peu plus complexe la perception visuelle de l'emplacement et l'organisation spatiale des différents édifices. Une prospection géophysique nous a permis d'identifier les emplacements des sondages où ont été mis en lumière les anomalies du sol. Contrairement aux travaux d'Ilona, le fait de devoir creuser sous la surface du sol pour trouver de potentiels vestiges est l'archéologie sédimentaire. Un autre élément vient complexifier les fouilles. Le site est classé au titre des monuments historiques. C'est-à-dire que dès que nous trouvons quelque chose, nous devons demander une autorisation pour continuer. L'objectif principal est de déterminer l'aspect et l'emplacement du bourg et du château médiéval jusqu'à la citadelle moderne connue aujourd'hui. Les recherches sont menées en exploitant les données issues des différentes sources textuelles, combinées aux résultats issus des différentes campagnes archéologiques. Ainsi, cette approche pluridisciplinaire permet d'obtenir des résultats concluants, associant dans certains cas des vestiges matériels pouvant être rattachés à des faits historiques. Concernant Oléron, la majeure partie des vestiges identifiés lors des fouilles sont à rattacher à des vestiges des premiers états de la citadelle. Pour ce qui est des éléments médiévaux, ils ont eux aussi fait l'objet de résultats intéressants. Les résultats archéologiques montrent l'intérêt de fouiller pour trouver d'autres vestiges et confirmer les hypothèses. Le second objectif a été d'évaluer la place de l'île et son importance dans les dynamismes et les échanges avec le continent. Ce que je trouve intéressant dans mes recherches est de pouvoir visualiser progressivement l'organisation du bourg médiéval en combinant les sources, mais également les transformations qui ont abouti au bourg actuel. L'autre élément stimulant de ce travail est de comprendre les dynamismes et les enjeux de l'île durant cette période. De déchiffrer et d'interpréter les données pour en dégager une interprétation nouvelle. En revanche, un aspect me laisse une petite frustration. Le fait de savoir que certaines suppositions resteront des hypothèses en vue des éléments dont nous disposons actuellement. Mais cela est le principe même de la recherche. Pour conclure, je vous ai fait un top 3 de ce qu'il faut retenir de mes recherches. Premier point, le château à proprement parler, qui est toujours difficile à localiser, semble être plutôt une tour et non une construction de grande ampleur. L'absence de traces archéologiques et l'emploi du terme « touris », qui signifie « tour » dans les sources textuelles, appuient mon hypothèse. Deuxièmement, les différents édifices qui constituent le bourg ont pu être identifiés, principalement dans les sources textuelles et cartographiques. On retrouve deux églises, l'église Sainte-Marie et l'église Saint-Nicolas, le prieuré Saint-Jacques, le couvent des Cordeliers, qui devient par la suite le couvent des Récollets, ainsi que différents cimetières. Grâce aux différentes informations, les édifices ont tenté d'être localisés et géoréférencés afin d'établir une cartographie évolutive du bourg, de la période médiévale jusqu'à l'actuelle citadelle. Dernier point, de façon plus générale, ce travail permet une meilleure compréhension du territoire insulaire oléronais, notamment son commerce et les échanges qui en découlent. J'espère avoir éveillé votre curiosité et attiré votre attention sur un sujet lié à l'actualité de la recherche. Et si votre chemin passe par la Charente-Maritime et que vous faites un détour sur cette île sauvage, peut-être que vous repenserez aux édifices disparus en admirant la citadelle ou au commerce du XIIe siècle en visitant les marais salants.
Merci beaucoup Quentin pour cette intervention qui nous permet de mieux comprendre la configuration médiévale de l'île d'Oléron. Quel type de source as-tu utilisé et quelles informations t'ont-elles apporté ?
Alors j'ai d'abord utilisé les sources textuelles comme les cartulaires. Ces sources m'ont permis d'identifier des édifices médiévaux associés à des dates ainsi qu'à des personnages. Les sources textuelles anglaises ont elles aussi été appréhendées, car l'île d'Oléron est sous la domination anglaise pendant une bonne partie de la période qui nous intéresse. Je me suis aussi servi des sources cartographiques et planimétriques afin d'identifier différents emplacements d'édifices, des noms de lieux ou encore différents états de construction. Les vestiges archéologiques m'ont eux aussi fourni des éléments majeurs pouvant appuyer mes hypothèses, comme la localisation précise des vestiges, ainsi que des éléments de datation.
En quelques mots, peux-tu évoquer les principaux résultats des fouilles ?
Alors, il faut savoir que les fouilles n'ont pas permis d'identifier le château médiéval, ce qui était pourtant l'un des enjeux principaux. En revanche, celles-ci ont permis d'appréhender quelques vestiges médiévaux, comme plusieurs sépultures réparties sur l'ensemble du site, un chemin d'accès ou encore quelques structures encavées. Il a été observé que les vestiges médiévaux ont été impactés par les travaux d'aménagement postérieurs. La majorité donc des vestiges mis au jour sont modernes et sont à rattacher aux premiers états de la citadelle, comme par exemple des structures de l'enceinte extérieure réalisées par le chevalier de Clerville, mais également des vestiges de murs et niveaux de sol en lien avec les casernements modernes aujourd'hui disparus. Ainsi, l'enjeu principal de l'archéologie est d'apporter des éléments matériels qui parfois n'étaient pas parvenus jusqu'à nous autrement. L'archéologie permet de faire avancer la découverte du patrimoine et enrichir notre culture historique.
Quels éléments font de l'île un espace convoité à la période médiévale ?
Tout d'abord, son caractère insulaire en fait un emplacement stratégique naturel. Ensuite, son climat favorable et son territoire fertile dispose de différentes ressources, telles que le sel et le vin, qui apparaissent assez tôt, dès le XIe siècle, et vont connaître un succès majeur dans le commerce maritime à partir du XIIe siècle. Enfin, la présence de différents pouvoirs répartis sur l'ensemble du territoire, qu'ils soient royal, seigneurial, ecclésiastique ou communal, chacun de ces pouvoirs cherche à tirer profit des ressources et de l'emplacement de l'île. Comme nous avons pu l'observer pour la période médiévale, avec les rivalités entre la couronne d'Angleterre et la couronne de France pour posséder ce territoire.
Merci beaucoup Quentin pour ces précisions. Je vais conclure cette émission par des remerciements adressés à Ilona et Quentin pour leur présentation, mais aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, pour l'attention apportée à cette émission, aujourd'hui sur deux pans majeurs de l'archéologie. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes.
Thank you.